Hugo Becker, bonjour. Alors, vous êtes ici à Cannes dans le cadre de la grande aventure de Talent à Dami. Talent à Dami, c'est pas nouveau pour vous, puisque finalement, déjà en 2010, vous étiez de l'autre côté de la barrière.
Exactement, ouais. C'était 2010 ou 2011, je sais plus effectivement. Mais oui, j'ai eu la chance d'être choisi pour être un de ces jeunes talents Cannes, à Dami. Et aujourd'hui, on m'a confié la réalisation d'un des films. J'ai la boucle est bouclée, ça fait sens pour moi parce que effectivement je suis ravi de rendre un peu l'appareil et de mettre en valeur des talents, des jeunes talents qui sont Alexandre Auvergne, Quentin Claude Parmentier et Suzanne Joanet, qui sont fantastiques. Alors c'était c'était intense, hein, c'était vraiment 5-6 mois de travail très intense, de travail avec les acteurs, mais moi j'adore ça, donc c'était aussi un plaisir. Mais comme c'est un film, c'est à vous d'en parler, mais c'est un film qui a une thématique qui est quand même assez, qui est assez forte entre guillemets, c'est-à-dire que qui est assez violente en tout cas. Et donc forcément le travail, des acteurs, c'était forcément très intense comme vous l'imaginez.
Il y avait aussi.
On ne s'y attend pas, ouais.
Non, parce que. Et je trouve que ça va crescendo et notamment on va pas déflorer, mais la scène des toilettes est quand même très très dure. Je pensais pas quand même que vous puissiez aller jusque là.
Tant mieux, ça veut dire que tant mieux. L'idée était effectivement de évidemment pas choquer pour choquer, mais en même temps rendre la réalité de façon brute telle qu'elle est et de se rendre compte à quel point c'est inquiétant. Mais pas se limiter à ça aussi, quelque part donner des pistes du pourquoi en fait, dans quel engrenage on est pris pour en arriver là, à quel moment ces influenceurs film. exactement qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans le parcours de
ça
quelqu'un
fait 15 ans finalement que
qui se radicalise tout doucement mais qu'on s'en rend pas compte. Au début on trouve ça amusant en fait, on trouve ça amusant, on se dit oh ça va, elle est où la limite en fait, où est-ce qu'on fixe la limite?
Donc en fait, c'est l'impact et l'excès de ces réseaux sociaux et qui finalement vous bousillent la vie.
C'est ça.
Et on a besoin, à la limite, de reconnaissance, c'est ça.
En fait, c'est effectivement une quête sans fin et sans fond de reconnaissance par tous les moyens. Et on se perd là-dedans. Alors effectivement, ça fonctionne. Le plus inquiétant, est-ce que c'est la personne qui se perd là-dedans ou c'est les gens qui suivent cette personne-là et qui participent à cette perte par facilité. Enfin, le film questionne ça. Pourquoi en fait on suit ça par facilité, par fascination, par peut-être il y a un côté aussi malsain. Peut-être il y a une façon de se rassurer sur sa voyeurisme, une façon de se rassurer sur sa propre existence. Il y a plein de raisons, mais. Aucune d'entre elles ne sont bonnes à mon sens. Mais en revanche, on fait tous partie de cet engrenage-là. Et en fait, on ne se rend compte de la gravité de ce que c'est que quand on dépasse cette limite. Voilà, on en arrive à faire du mukbang. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Où est-ce que...
Le titre, justement, c'est mukbanger.
Voilà, mukbanger. Ouais. C'est-à-dire que cet influenceur-là, quand il a démarré ses vidéos, parce qu'il y a des influenceurs qui font des vidéos très intéressantes, qui peuvent aider certaines personnes, qui peuvent nous apprendre des choses, etc. Et puis il y en a, c'est vraiment. J'ai un vrai doute sur le quelconque impact positif que ça peut avoir dans la vie des gens. Mais en fait, comme il y a une quête et une course aux followers et à l'impact et au succès entre guillemets, et quelque part aussi à l'argent, parce qu'on associe succès et argent alors que ça n'a rien à voir, c'est deux concepts qui sont quand même très éloignés, en tout cas qui devraient l'être, eh bien on se rend compte qu'on arrive à cause, enfin voilà, avec cette quête sans fin, on en arrive à faire des choses qui n'étaient évidemment pas ce qu'on rêvait de faire au début. C'est ce qu'on voit, voilà, je vais pas spoiler encore une fois là, à la fin de ce film, mais on voit bien que au début c'est pas ce qu'ils cherchaient à faire, pas du tout. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Moi, en fait, pour tout vous dire, quand j'ai découvert cette thématique, pendant deux jours, j'ai pas mangé. Je crois que j'ai pas mangé, pas seulement à cause des images que j'avais vues, mais je crois que spirituellement, ça m'avait affecté. C'est-à-dire que je me disais, ça m'avait coupé l'appétit, quoi. Mais au sens propre du terme, je dis, mais C'est, parce que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense quand même. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens, des dizaines de millions de gens qui suivent ça. Vous vous rendez compte ? C'est pas un phénomène isolé. Et ces types-là, ces types-là gagnent beaucoup d'argent et de surcroît, du coup, il y a des gens qui les prennent comme modèles et qui se disent, je vais faire ça, ma vie. Bah oui, il a réussi, il gagne de l'argent, il vit de ça. Mais on peut vivre de beaucoup de choses, c'est pas forcément réussir sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Je me suis dit, j'ai entendu une fois une discussion d'une jeune femme qui disait, en parlant d'une influenceuse qui avait un côté quand même, je trouve, contrairement à d'autres qui font des choses, comme je disais, voilà, il y a tout. Mais là, c'était vraiment très malsain. Et elle dit, ouais, mais elle a réussi. Elle répondait à sa copine. Et donc, il n'y avait même pas matière de dialogue. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, s'était formaté que ça, c'était la réussite. Et quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ça était forcément jaloux. Alors qu'en fait, la personne peut être inquiète plus que autre chose, en fait. Mais voilà, il y a une espèce de... Les réseaux sociaux sont en train de créer, par moment, ce phénomène-là de fascination, parfois pour n'importe quoi, tant que ça marche. Et du coup, on oublie les raisons pour lesquelles on fait des choses dans la vie. La vie, elle nous est donnée, on a un temps qui nous est imparti. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on en veut en faire ? Il y a plein de réponses possibles. Il y a plein de gens qui font des choses formidables, que moi j'admire énormément, et qui méritent qu'on parle d'eux dans la presse, dans des films, dans des documentaires. Et quand on voit la place que prennent certains phénomènes du type du mukbang, on se demande si on marche pas un peu sur la tête.
Ouais. Ben, heureusement, vous mentionnez quand même au début du film, tiré d'une histoire vraie. On veut baser sur une histoire vraie quand même, parce que c'est vrai qu'on avoir des doutes.
Hein. Ah oui, c'est, effectivement, vous avez raison. Ça va tellement loin qu'on pourrait se dire, non, mais là...
Il exagère.
Là. Parce qu'en fait, c'est des mondes parallèles. C'est-à-dire que c'est pas des choses... Vous ne suivez pas ça, tant mieux. Moi, je ne connaissais pas ce sujet-là. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait, non pas 10 000, 100 000, mais des dizaines, des centaines de millions de personnes qui suivaient des mecs comme ça, dans de nombreux pays. Ça vient de Corée, mais maintenant, c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est partout, quoi. C'est... Là, vous vous dites... déjà, il faut le dire, que c'est une histoire vraie, pour que les gens se rendent compte qu'on n'est pas en train d'imaginer une dystopie.
C'est pas fiction, quoi.
Voilà, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est bien réel, quoi.
Alors le personnage central, donc, c'est Mika, qui est interprété, donc, comme on l'a dit, par Quentin Lachotte-Permentier.
La Clotte Permentier.
La Clotte. Et qui est... la nature a été généreuse avec lui, on peut le dire. Il a un certain volume que vous avez fatalement poussé à l'extrême avec...
Il y a eu quand même un très gros travail de SFX, c'est-à-dire de prothèse, donc en réel, donc en matière. Et ensuite, en effets spéciaux, on a effacé ici et là les petites choses pour que ça ne se voit absolument pas. Mais oui, il y a eu un gros travail pour rendre les choses crédibles. Et après, dans la façon de filmer, évidemment, c'est pour ça que le film est aussi en 4/3. Déjà pour sentir l'enfermement de ce personnage, le fait qu'il soit compressé en fait, dans le monde dans lequel il vit, et enfermé dans cette espèce d'engrenage. Et également pour faire sentir et faire ressortir son côté massif.
Est-ce que The Whale et Brendan Fraser ont eu un impact sur le film?
Ben en fait, on a tourné le film bien avant que The Whale
éclate.
Et moi, je l'ai toujours pas vu, ce film. Mais c'est bien avant même qu'on en entende parler. Oui. C'est-à-dire qu'il était ni sorti, ni même annoncé. Enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas eu l'annonce. Donc, non, pas du tout. C'est drôle parce que je pense qu'il y a des phénomènes... Alors, ça parle pas de mukbang, je crois. Je l'ai pas vu, mais je crois que ça parle pas de mukbang. Mais en revanche, oui, il y a des thématiques qui sont cousines et qui finalement vont intéresser des mêmes personnes, enfin des personnes différentes au même moment, je veux dire. Et c'est pas illogique. Ça veut dire que on est touché par les mêmes choses et on s'inquiète des mêmes choses, je pense. J'avais lu quelque chose. Il y a souvent des ouvrages qui sont écrits sur des thématiques cousines ou jumelles dans différents pays qui n'ont rien à voir, sans que personne ne sache. Et il paraît que c'est un phénomène, que c'est quelque chose qui a lieu depuis très longtemps. Que même quand Alfred de Musset écrit Une balade avec l'amour, ou je ne sais plus quelle pièce, Il y a une pièce russe qui fait étrangement penser. Or, à l'époque, c'est évidemment pas du plagiat, c'est absolument impossible. Donc oui, je pense que j'aurais plaisir à voir ce film-là, d'autant que c'est un réalisateur que je trouve absolument, fascinant et brillant, Darren Aronofsky. Donc je le regarderai, mais non, c'est drôle, mais pas du tout. Voilà, c'est étrange, mais voilà, il y a des... Et je crois, on m'a même parlé là de quelque chose, d'un film espagnol apparemment qui est d'une série. Donc je crois que je pense que c'est une thématique qui travaille beaucoup de gens en fait. Et évidemment, quand un auteur ou un réalisateur se penche sur un sujet comme ça, il a envie d'en faire un film parce que c'est la métaphore d'énormément de choses. C'est donc ça permet vraiment de parler de bien d'autres choses que simplement du mukbang en fait, ce film-là.
Alors vu la la gravité, je veux dire, du sujet, est-ce qu'il y a, on peut imaginer une assistance psychologique pour Quentin à la sortie de son tournage?
Alors heureusement Quentin il n'est pas mukbanger, même si on s'est servi de footage et d'images d'archives et d'enfance de lui pour ça on devrait pas le dire d'ailleurs, je vous prierai de couper cela parce que là on entend spoiler le film, mais en tous les cas, je veux dire, c'est un acteur. Donc, on a fait un vrai travail en amont. Moi, je suis souvent très proche de mes acteurs. C'est-à-dire que je les laisse pas en pleine nature. On discute de tout avant. On travaille beaucoup ensemble. Pour moi, il est extrêmement important qu'il fasse confiance, de faire confiance au réalisateur, que ce soit un allié, de pas justement vouloir le surprendre ou etc. Ça, de vouloir le surprendre ou de lui cacher des choses pour trucs. C'est-à-dire qu'il vaut bien mieux travailler main dans la main. C'est-à-dire que si on a une idée sur une scène, il faut absolument la partager avec le réalisateur parce que il peut la mettre en valeur, il peut justement l'orienter si elle va pas dans le bon sens, et expliquer pourquoi, bien au contraire s'en servir. Tout ça pour dire que comme on a énormément discuté et travaillé ensemble, il n'y a pas eu du tout de soucis là-dessus. Et puis, c'est quand même quelqu'un qui a des prothèses. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'état de santé du personnage Quentin. Quentin, il est en pleine forme, Quentin. Tout va bien. Voilà.
Alors, pour l'instant, vous êtes en tournage. Nice-Marseille.
Exactement.
Et La Peste en pleine science-fiction.
C'est ça.
Mais tout en étant quand même inspiré à la base quand même de Camus.
Ouais.
Et le Covid est passé par là.
Oui, c'est effectivement, apparemment, La Peste a été énormément lue pendant le confinement. Et donc, je trouve que l'idée d'une dystopie en 2029,
c'est
assez judicieux de se placer là, post-Covid, et d'imaginer un nouveau fléau viral. Je trouve ça assez intéressant. Et puis, ça permet de parler, évidemment, une nouvelle fois en parabole, via La Peste et les rats. Les rats symbolisent, évidemment... totalitarisme, le racisme, la télésurveillance, le contrôle de plus en plus présent. Donc c'est très intéressant, ouais. Je suis ravi. Et puis c'est quand même une œuvre majeure du répertoire. Donc quand on est acteur, on est très heureux de faire partie de ce genre de projet.
Et finalement, Camus est toujours d'actualité, quoi.
Camus est toujours d'actualité, ouais. Exactement.
Hugo, un grand merci. Et
merci
donc,
à vous.
On rappelle surtout que vous allez passer une année avec votre court-métrage, quand même.
C'est-à-dire.
Mais vous allez le tourner, le présenter.
Écoutez, on espère. Apparemment, on a déjà quelques sélections là, donc j'étais très étonné parce que c'est le jour de la première à Cannes, mais apparemment, il y a déjà des festivals qui veulent le diffuser. Donc ouais, j'aurai plaisir à le défendre, ce film-là. Il est important pour moi. Ouais.
Félicitations.
Merci beaucoup.